Aujourd'hui, en ce 7 novembre, je voudrais revenir un peu sur Jérôme Leroyer de la Dauversière, dont il a été question hier, le fondateur véritable de Montréal, et ce laïc étonnant, père de 5 enfants, qui a été le fondateur d'une importante congrégation de sœurs hospitalières de Saint-Joseph, qui sont ici à Montréal depuis le 17e siècle, depuis peu de temps après la fondation de Montréal, et qui s'occupent, comme chacun sait, je l'espère, de l'Hôtel Dieu de Montréal. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous parlerai tout à l'heure aussi, assez longuement, de sœur Simone Boisvert, qu'on appelait en religion Mère Lionel, chose étonnante, et qui a été une sœur blanche, c'est-à-dire une sœur missionnaire d'Afrique, une petite sœur de chez nous, qui est née à Sainte-Martine de Châteauguay, et qui est décédée le 7 novembre 1986 à Québec, où il y a une résidence pour les sœurs blanches, où elles attendent là-bas la grande rencontre, comme ma grande amie, sœur Gabrielle Julien, que j'ai connue comme ça, dans un autobus à la sortie de Radio-Canada un jour. Je vous parlerai aussi de Zacharie et d'Élisabeth, les parents du patron du Québec, Saint-Jean-Baptiste. Voici donc, pour ce qui est de Jérôme Leroyer de la Dauversière, au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je ne vous ai pas suffisamment parlé hier de l'âme de Jérôme Leroyer de la Dauversière, fondateur de Montréal. On a vu avec quelle énergie il a accompli le mandat qu'il avait reçu de Dieu intérieurement de fonder ce qu'on appelle les filles de Saint-Joseph ou les sœurs hospitalières de Saint-Joseph. Et aussi ce mandat qu'il a reçu en 1631 de travailler pendant 20 ans à l'établissement de la colonie de Montréal, de Ville-Marie. Nous portons ce nom, très beau nom, qui était le nom de Montréal au tout début, et qui était le nom qu'a connu Jérôme Leroyer de la Dauversière, le fondateur de notre ville. Jérôme Leroyer vaquait quand même, n'est-ce pas, à ses multiples obligations. Il avait ses responsabilités de mari, il était père de famille, il était percepteur d'impôts, il était aussi administrateur de l'Hôtel-Dieu de La Flèche où il résidait. D'ailleurs, savez-vous que les gens qui allaient le voir montaient un escalier qui a été donné à Montréal et que l'on retrouve au musée de l'Hôtel-Dieu. Le musée de l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui est un très beau musée que je vous supplie d'aller visiter, vous serez ravis, et même vos enfants ou vos jeunes adolescents seront très intéressés à visiter, si vous les préparez et leur expliquez comme il faut. Ce musée situé sur l'avenue des Pins, donc au nord de la rue Sherbrooke, entre la rue Saint-Urbain et l'avenue du Parc, qui devient la rue Bleury tout près, c'est la même rue. Et là, ce musée plutôt moderne, mais qui ne heurte pas du tout les beaux bâtiments anciens, renferme cet escalier sur lequel s'est appuyée la main de Jérôme Leroyer, de Jeanne Mance, de tant de personnes qui ont participé à la fondation de Montréal, de tant de gens animés d'une foi très vive et très profonde, car notre ville a été fondée dans un idéal chrétien remarquable. Dieu avait dit à Jérôme Leroyer qu'il lui promettait la force, la sagesse. Et c'est comme ça que cet homme qu'on peut appeler un serviteur fidèle selon les termes de l'Écriture et de la liturgie, a accepté de s'engager concrètement. C'était un mystique concret. Que de gens sont mystiques et manquent d'esprit concret. Je ne parle pas des moines et des moniales, qui ont l'esprit concret quand ils sont de vrais moines et de vrais moniales. Je parle de ces gens qui se perdent dans une fausse mystique et qui n'arrivent pas à vivre une vie spirituelle concrète, d'engagement, même dans les petites choses. Une simple salutation à quelqu'un que l'on rencontre, un sourire, l'aide, l'empressement à rendre service. Jérôme Leroyer, lui, était un homme d'action infatigable, un mystique d'action. Il y a aussi le contraire, les gens d'action qui n'ont aucune mystique, qui ne prient jamais, qui se contentent d'agir, et c'est dramatique. Ça tourne souvent dans le vide et leur témoignage ne rejoint personne. Jérôme Leroyer de la Dauversière était un grand priant. Il possédait une vie intérieure très profonde. Il avait une grande disponibilité à servir Dieu. Et son abandon était sincère, l'abandon à la volonté de Dieu. On peut se demander comment un laïc ordinaire, qui était sans doute très estimé par les habitants de la ville de La Flèche, qui était bien vu à Paris, puis à la cour du roi, on peut se demander donc comment ce laïc bien ordinaire est parvenu à ce degré d'union à Dieu que seuls les saints semblent capables d'atteindre. C'est un aspect trop souvent oublié de la vie du fondateur de Montréal, le vrai fondateur de Montréal. Je ne veux rien enlever à Paul de Chemédé de Maisonneuve, mais on a pu voir hier que c'est Jérôme Leroyer de la Dauversière qui l'a choisi pour fonder Montréal d'une façon concrète, n'est-ce pas, dans l'espace et le temps. Monsieur de la Dauversière n'a jamais traversé l'océan. Et cet aspect oublié de sa vie, ça constitue au fond le dynamisme central de toute sa personnalité. C'est ça qui donne à tout ce qu'il a fait son véritable sens. Très jeune, on l'a pu le voir hier, Jérôme avait entendu parler des missions en Nouvelle-France. Il avait côtoyé les missionnaires jésuites et les occasions n'avaient pas manqué à Jérôme Leroyer de la Dauversière d'approfondir sa foi chrétienne. C'était un jeune homme pondéré, réfléchi, qui ne s'est jamais lancé dans un projet apostolique sans avoir d'abord prié et surtout sans avoir consulté son guide spirituel, ce qui n'est pas facile. Combien de gens entreprennent des œuvres sans conseil et sans prière? Et c'est ce qu'il a fait, Jérôme Leroyer, avant d'entreprendre d'abord la fondation de sa communauté de sœurs hospitalières pour La Flèche, sa ville natale, et aussi pour l'établissement de ce qu'on appelle la colonie dans l'île de Montréal. Il attend très simplement que son conseiller, un prêtre, soit convaincu que telle est la volonté de Dieu et qu'il ait reçu l'autorisation à agir. Et jusqu'à l'âge de 33 ans, Jérôme Leroyer avait mené une vie chrétienne ordinaire. Plusieurs expériences intérieures qui datent de la période des années 1630 marquent le début d'une transformation dans son âme, d'un approfondissement de sa foi, d'un accroissement de ferveur qui vont l'inciter à agir pour la plus grande gloire de Dieu. Quand j'ai fait mes études chez les jésuites au collège Brébeuf, on mettait toujours au début de nos devoirs, et Dieu sait qu'on en avait tous les jours, on mettait ça au début de nos examens écrits, de tout ce qu'on écrivait, AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Et lui faisait la même chose, il avait étudié chez les jésuites de La Flèche, il y a presque 400 ans. En 1632, il était tombé gravement malade. Ce temps d'arrêt dans ses occupations ordinaires Ça avait été l'occasion de sa conversion intérieure. Sachons profiter aussi, nous, de nos maladies occasionnelles. Je me souviens d'avoir été gravement malade quand j'avais à peu près une trentaine d'années. Et ça m'avait beaucoup aidé. De l'état donc de bon chrétien, Jérôme Leroyer passa à la consécration de tout son être au service de Dieu. Et ça dans un abandon total, une parfaite soumission à la volonté divine. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Mais on trouve au creux de son cœur une grande disponibilité. Et ça a caractérisé Jérôme Leroyer tout le reste de sa vie. Ça s'est manifesté dans la persévérance, la fidélité à accomplir les entreprises que Dieu lui confiait. Il a reçu des grâces exceptionnelles. Ça l'étonnait. Ça étonnait ses directeurs qui en ont convenu finalement que Dieu était à l'œuvre chez ce simple laïc qui était appelé à agir pour le bien des pauvres et pour l'évangélisation des Amérindiens du Canada. Le Canada, c'était très grand. Ça se rendait jusqu'au golfe du Mexique. Car nous, Français d'Amérique, nous possédions à l'époque presque toute l'Amérique du Nord. Il n'y avait que la côte des États-Unis qui ne nous appartenait pas. Et pendant de nombreuses années, Jérôme Leroyer écrit son journal spirituel. Il l'a détruit malheureusement quelques mois avant de mourir. Et si c'est dans ces trois cahiers qui ont pu échapper à ce drame qui est un peu révélé ce qui animait vraiment Jérôme Leroyer de la Dauversière. Sa grande bonté, qui se manifeste en particulier dans son souci du pauvre, c'est l'une des caractéristiques dominantes de sa belle personnalité. Ses sœurs Marie Morin, c'est un nom d'aujourd'hui, hein? C'est une des premières hospitalières qui déclarait ce que toutes les sœurs, les premières sœurs de Montréal qui ont connu et aimé M. de la Dauversière disaient. Il aimait cette œuvre Ville-Marie autant ou plus que sa propre famille. Est-ce que vous aimez Radio Ville-Marie autant que votre propre famille? J'espère que oui. J'espère que vous aimez nos émissions. Pour Jérôme Leroyer, pas de piété désincarnée. Hein? Prière et action, ça allait de pair. Et les exercices de piété, les pratiques de charité qu'il suggère, ont toujours pour but d'intensifier la vie spirituelle de ses enfants et de ses religieuses. Et la spiritualité que Jérôme expose, elle est basée sur quoi? Sur l'amour. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est depuis l'Évangile. On le retrouve tout au long de l'histoire de l'Église. C'est basé aussi, cette spiritualité, sur l'union entre les membres de la Sainte Famille de Nazareth, cette association qu'il avait fondée, et qui conduit à l'amour existant, disait-il, entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Je prie souvent devant un vieil ex-voto du début du 18e siècle que j'ai chez moi. Ça date d'environ 1700. On dit que c'est peut-être même plus ancien. Ça vient du Mexique et on voit la Sainte Famille, Jésus entouré de Marie et de Joseph. Et au-dessus de Jésus, il y a l'Esprit Saint. Et plus haut, Dieu le Père. C'est très impressionnant, c'est naïf, mais c'est très beau. Par l'entremise donc de la Sainte Famille, les sœurs hospitalières peuvent avoir accès à l'amour au sein de la Sainte Trinité. Je vous parlerai d'ailleurs après-demain de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, que j'aime beaucoup, cette carmélite décédée le 9 novembre 1906. L'amour qui est au sein de la Sainte Trinité, selon Jérôme Leroyer, et la source ultime de la tendresse et de la compassion qui rayonne dans le soin et le souci que les sœurs ont de conduire à Dieu les pauvres, les malades et les démunis. Une grande dévotion, d'autre part, à Saint Joseph, qui caractérise Jérôme le Royer, se situe d'ailleurs dans le contexte de la Sainte Famille, dont le père adoptif de Jésus est le chef. Jésus avait un père adoptif et ça étonnait toujours et émerveillait mon fils adoptif Guy, qui est décédé l'an dernier à 40 ans. Il aimait beaucoup Saint Joseph. Et comme il aimait aller prier sur le tombeau du frère André avec moi, il tenait toujours à allumer une lampe, là, parmi les centaines de lampes autour du tombeau. C'était sympathique chez lui. Il avait une ferveur pour Saint Joseph, père adoptif de Jésus. Il m'avait d'ailleurs dit un jour qu'il aimait bien Jésus parce que Jésus avait aussi, lui, un père adoptif. Et la très grande simplicité du dialogue de Jérôme le Royer de la Dauversière avec Dieu et son abandon total à la volonté divine, c'est des constantes dans sa vie spirituelle. Sa parfaite soumission à la volonté de Dieu transparaît, en particulier dans les jours de maladie, de très grandes souffrances physiques et morales qui ont précédé sa mort. Le baron de Fancan, qui a habité chez lui 15 ans, raconte les derniers moments de son grand ami. Il dit, « Il leva les mains au ciel, regardant attentivement en un endroit, avec un visage joyeux et comme s'il eût aperçu quelque chose de fort agréable, et peu après, les abaissant tout doucement et les croisant sur sa poitrine, il baissa la tête et expira sans aucun soupir. » En somme, le fondateur véritable de Montréal n'a rien eu du rêveur ou du visionnaire. C'était un homme d'entreprise, réaliste et pratique. Mais il est aussi un homme de foi et de prière, un grand pénitent, un ami de Dieu. Comme l'a déclaré le père Guy-Marie Houry, ce étonnant bénédictin de Solesmes qui vit parmi nous depuis bien longtemps, qui a été aumônier des bénédictines à Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes, et qui est aujourd'hui, je crois, aumônier de la fondation de ce monastère à la frontière américaine aux États-Unis. Lui qui est l'auteur de ce qu'on appelle la positio pour la cause de la béatification de Jérôme le Royer de la Dauversière, mais il déclare que M. le Royer est tout d'abord un mystique tourné vers l'action. Et cette expression condense bien l'essentiel de son existence. C'est un modèle, comme dit Pie XI, un modèle pour tous les laïcs qui se dévouent bénévolement dans l'Église et la société. Je voudrais vous dire quelques mots de Saint Zacharie et de Sainte Élisabeth, qui ont évidemment vécu au premier siècle, puisque sont les parents de Saint Jean-Baptiste. Ils appartiennent au groupe de tous ces personnages qui font la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est Saint Luc qui nous en parle. Zacharie, ça veut dire « Yahvé s'est souvenu ». Il appartenait, selon Saint Luc, à l'une des 24 classes sacerdotales qui fonctionnaient chacune une semaine, là, suivant un ordre que la tradition faisait remonter à David. Sa femme, Élisabeth, dont le nom veut dire « mon Dieu a juré », descendait d'Aaron, elle, selon Saint-Luc encore. Tous deux, dit Saint-Luc, étaient justes aux yeux de Dieu, suivant sans reproche tous les commandements que les observances du Seigneur. Et Luc ajoute, ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient avancés en âge. On retrouve dans la Bible souvent des couples stériles, comme ça. Il était question de Rebecca, n'est-ce pas, dans la Genèse, de Rachel, la femme de Manué, puis d'Âme, la mère de Samuel, ça c'est dans le livre de Samuel. Mais Luc est un, selon la tradition, un peintre qui aurait peint le portrait de Marie. On voit ça sur des icônes russes. Mais on peut dire qu'il a fait trois tableaux de la vie d'Élisabeth et de Zacharie. Le premier tableau, c'est le dialogue de Gabriel et de Zacharie dans le temple. Vous vous souvenez, on lit ça dans au début de l'évangile de Saint-Luc. Un jour que Zacharie, désigné par le sort parmi les prêtres de sa classe pour offrir le sacrifice de l'encens, était entré dans le Saint des Saints, parti du temple où seuls avaient accès les prêtres. Il avait eu une vision, dit Saint-Luc. Un ange lui apparut à droite de l'autel de l'encens, au sud, où se trouvait le chandelier. Zacharie est effrayé, alors l'ange le rassure, lui apprend que sa femme enfantera un fils, que tu appelleras, dit le texte, du nom de Jean, c'est-à-dire Yahvé a été favorable. C'est le patron, ce Jean, patron du Québec, Jean-Baptiste. Alors l'ange annonce ce que sera cet enfant. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni alcool. Si on pouvait vin, moi j'aime bien boire du vin, mais boire de l'alcool et se saouler la gueule, je trouve ça ridicule, ridicule. Alors il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni alcool. Et c'est très beau. Ensuite, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il aura l'Esprit et la force d'Élie. Il préparera au Seigneur un peuple bien disposé. On devrait prier sur les femmes enceintes pour que l'Esprit Saint habite dès le sein de leur mère les enfants qui naissent. Zacharie ne pouvait pas croire ses oreilles, et comme Abraham et d'autres dans la Bible, il demande un signe. Il veut des lettres de créance. Alors il dit, « Comment connaîtrais-je cela ?» Et l'ange dit, « Je suis Gabriel, c'est-à-dire l'homme de Dieu. » Alors pour confirmer ses dires, Gabriel rend Zacharie muet jusqu'à la réalisation de ses promesses. Et sa semaine de service terminée, ben Zacharie retourne à Aïn Karim, où je suis déjà allé d'ailleurs, où il habitait, d'après une tradition locale, remontant au 5e siècle. Alors nous avons vu que Zacharie est devenu muet. C'est Gabriel, l'archange Gabriel, qui l'a rendu muet. C'était le signe qu'il avait demandé. Alors on sait qu'Élisabeth, sa femme, a dû demeurer dans la solitude et le silence pendant 5 bons mois. L'Évangile ne donne pas de raison qu'elle a eu de dissimuler tout ce qui se passait. Pas plus que on précise le degré de la parenté qui unissait cette Élisabeth, épouse de Zacharie, à Marie, la mère de Jésus. On se souvient que dans l'Évangile de Saint-Luc, on dit que Marie, apprenant qu'Élisabeth, sa parente, était enceinte, on dit sa cousine souvent, elle part en hâte vers elle. Et c'est là que se situe le deuxième tableau que nous dessine le peintre, si on peut dire Saint-Luc, là. Il n'était pas peintre, on ne sait pas. Mais je l'appelle un peintre parce qu'il raconte des scènes. C'est magnifique, hein? Alors on passe maintenant à la scène de la visitation, telle qu'elle est racontée dans Saint-Luc. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie qui entre chez elle, l'enfant, dit-on, a tressailli en son sein. Il y avait un enfant déjà dans son sein. Hein? L'enfant n'apparaît pas après la naissance, il est déjà là avant. Hein? Faudrait réfléchir là-dessus pour ceux qui, tout en partageant la foi chrétienne, croient que on puisse être du côté des libres choix de ceux qui prônent l'avortement. C'est extrêmement délicat, mais il me semble qu'il y a là des vérités fondamentales que la science nous enseigne. La science actuelle, la science la plus récente depuis 30-35 ans surtout, et aussi l'Évangile de Saint-Luc. Donc l'enfant tressaillit en son sein, et on dit qu'elle a été, Élisabeth, remplie de l'Esprit-Saint. Et lors de l'Annonciation, Gabriel d'ailleurs, l'ange Gabriel, avait dit à Marie, « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Élisabeth avait poursuivi, « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Vous savez, les protestants qui trouvent que l'on l'exagère avec Marie ont peut-être raison dans certains cas. Mais je crois que nos frères protestants, quand ils méditent bien ces textes-là, retrouvent un grand respect pour Marie, comme on le voit actuellement chez les luthériens et dans d'autres grandes églises chrétiennes qui redécouvrent la Sainte Vierge. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » C'est ce que nous, catholiques, récitons quand nous récitons le « Je vous salue Marie ». Ce sont des paroles de l'Évangile. Et alors, Marie improvise ce qu'on appelle le Magnificat, qui est tiré de citations de l'Ancien Testament. comme pour mieux marquer la réalisation actuelle des promesses passées dans l'Ancien Testament. Et elle dit ces belles choses. « Mon âme loue la grandeur du Seigneur, et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. » Oui, son humble servante. Voyez ce qu'elle dit après. « Oui, dès maintenant, les humains de tous les temps me diront bienheureuse. » J'invite nos frères protestants qui ne la disent, qui ne lui parlent pas, qui ne lui adressent aucune prière, au moins de la louanger un peu. C'est dans l'Évangile, hein? « Oui, dès maintenant, les humains de tous les temps me diront bienheureuse. » Vous savez qu'il y a des protestants dont l'âme est si fraîche et si belle, si pure. J'en ai connu beaucoup. J'aimerais donc qu'ils aiment Marie un peu, n'est-ce pas? Ah, elle est bien digne de nos hommages, la mère de Jésus, avec son titre d'ailleurs qu'elle mérite de mère de Dieu. C'est un beau poème lyrique, hein? Que le Magnificat. Saint-Luc semble avoir voulu traduire là l'état d'esprit des deux mères à la fois, Élisabeth et Marie, l'une qui a été longtemps stérile et l'autre qui est toujours vierge, exultant de joie et magnifiant le Seigneur. Marie reste donc 3 mois auprès d'Élisabeth jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Maintenant, on va passer au troisième tableau que nous expose Saint-Luc dans son Évangile. C'est l'imposition du nom de Jean. Alors, 8 jours après la naissance, mais les voisins, là, les parents, se réunissent dans la maison de Zacharie, qu'on appelle Saint Zacharie dans la tradition catholique, comme Sainte Élisabeth, sa femme. Alors, ils se réunissent pour la circoncision de l'enfant. Ça montre bien les origines juives de notre foi. Hein? Ce sont des Juifs. Hein? Il y a là aussi cette cérémonie de l'imposition du nom. Alors, on veut l'appeler Zacharie, comme son père, mais Élisabeth, elle, Sainte Élisabeth, se récrie. Elle propose le nom de Jean. La parenté proteste, personne ne s'appelle ainsi dans la famille. Alors on demande au père, toujours muet, qui écrit sur une tablette « Jean est son nom ». Aussitôt, son infirmité, sa cécité, cesse. Il n'est plus muet, il parle. Et tous les voisins sont saisis de crainte. Et on dit dans l'Évangile de Saint-Luc que par toute la montagne de Judée, on s'entretenait de ces choses et l'on disait « Que sera donc ce petit ?» Ce chant du Benedictus, c'est la réponse inspirée de Zacharie à la question qu'on se pose sur Jean. Cette réponse comprend tout ce que la présence de Marie a révélé aux deux époux. Alors, Élisabeth et Zacharie ont terminé leur rôle après avoir donné à leur fils le nom révélé par l'ange Gabriel et entrevu sa carrière de précurseur du Messie, de Jésus. Et Luc n'en parlera plus. Et c'est ainsi que se termine, on peut dire, l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Et je compte vous parler maintenant de Sœur Simone Boisvert, des Sœurs Blanches, missionnaires d'Afrique. Sœur Simone Boisvert, comme je vous ai dit, est née à Sainte-Martine de Châteauguay, hein, vous avez dit ça au début de l'émission, le 10 mars 1910. Elle a fait sa première profession le 2 mai 1935, donc c'est une sainte, entre guillemets, tout à fait moderne. Elle a fait sa profession à Saint-Charles. Elle est décédée le 7 novembre 1986 à Québec. Une sœur Simone Boisvert est donc née dans le diocèse de Valleyfield. Dès l'année suivante, sa famille est venue habiter Montréal, à Ville-Marie, quoi, où son père, M. Boisvert, a travaillé comme électricien. Et Simone a eu 2 sœurs et 1 frère. Son frère n'a vécu que quelques mois. Donc, elles étaient 3 filles. Et en 1916, la famille est déménagée de nouveau. Ils sont allés se fixer dans l'Ouest canadien, les malheureux, en Saskatchewan, pour y cultiver la terre, hein, comme le faisaient bien d'autres Québécois à cette époque. C'est difficile de donner aux enfants une éducation religieuse suivie dans ce coin-là. Aussi, en 1920, la famille a fait une halte dans un village de langue française. Parce qu'ils étaient entourés d'anglo-protestants, j'imagine, ou d'ukrainiens, je ne sais quoi. En tout cas, ils se sentaient bien seuls et isolés. Ils se sont arrêtés, donc, dans un village de langue française parce qu'ils voulaient que ces enfants-là, les trois petites, puissent faire leur première communion. Puis en 1927, les Boisverts sont revenus durant un an à Montréal pour leur permettre de recevoir enfin la confirmation en français. Simone Boisvert pensait à la vie missionnaire. Sur les conseils de sa tante Yvonne, qui s'appelait sœur Philippe-Joseph, elle priait pour que son but se réalise. Puis elle aurait voulu entrer au postulat des sœurs blanches missionnaires d'Afrique à Québec à ce moment-là. Mais son père la trouvait trop jeune, elle n'avait que 17 ans. Pourtant, on a bien vu combien de saints sont entrés à cet âge-là et encore plus jeunes, dont la grande Sainte Thérèse d'Enfant Jésus à 15 ans. Elle n'avait que 17 ans, oui. Il lui a conseillé d'attendre quelques années. Alors on a repris la route de l'Ouest. Faut pas oublier, c'est 3000 kilomètres. Les enfants allaient à l'école anglaise, il fallait bien. Les écoles françaises avaient été supprimées. Puis à la maison, bien M. Boisvert donnait des cours de français à ses filles, afin de maintenir cette langue qui ne servait au fond à rien, si ce n'est qu'à survivre au foyer. Moi, toute ma famille qui habite l'Ouest est passée à la langue anglaise, sans exception. Il n'y a plus de francophones dans ma famille. Ce sont mes cousins germains et les fils de mes cousins. Le travail ne manquait pas à la ferme. Simone, qui était l'aînée, cultivait la terre avec son père. Elle soignait les animaux, les chevaux, les vaches, les poules, les chiens. Tous avaient un nom, dit-elle. Et chacun lui répondait, racontait-elle, à sa manière. Elle aimait beaucoup les animaux. Vous savez, c'est une sainte très simple dont je vous parle. Elle n'est pas canonisée, je vous le rappelle. Moi, je l'appelle une sainte parce que je la trouve merveilleuse. Que d'histoires amusantes elle avait à raconter à ses sœurs blanches quand elle parlait de son enfance. Elle devait même les enjoliver, croit-on, pour faire rire les sœurs. Mais finalement, Simone est entrée au postulat, donc, de Québec. En 1932, elle a fait son noviciat Saint-Charles, où elle a fait sa profession. Puis les gros travaux qui occupaient une grande partie du temps à cette époque, ça lui faisait pas peur. Donc, tout de suite après sa profession, elle qui s'appelait à l'époque sœur Lionel, imaginez, c'était le nom qu'elle avait reçu à la prise d'habit, probablement un nom de son parrain, j'imagine, ou je ne sais quoi. Mais quel nom pour une sœur, Lionel. De toute façon, elle a travaillé à la cuisine du noviciat de Saint-Charles. Puis, en 1937, elle a été nommée à Bayonne, en France, au postulat, où elle a étudié un peu chaque jour, tout en accueillant les visiteurs. C'est une femme très simple, c'était pas une sœur, comme on dirait, de cœur, c'est une sœur converse. C'est là souvent que se retrouve la sainteté dans les communautés. Et en 1940, donc, avec l'aide de sœur Marie-Andrée du Sacré-Cœur, elle a traversé le sud de la France pour pouvoir gagner Jansac. Elle y a rendu à Jansac des services absolument phénoménaux, car elle était simple, aimable, dévouée. Elle était experte en toutes sortes de travaux. Elle travaillait aussi bien à la cuisine, à la basse-cour qu'au jardin. Elle était d'autant plus appréciée qu'à ce moment-là, c'était la guerre. Et il y avait des pénuries. Il fallait se débrouiller avec les moyens du bord. Puis elle a passé encore 2 années au postulat de Cuire, C-U-I-R-E. Puis elle est arrivée à Paris, sur le boulevard des Invalides, où les Sœurs Blanches avaient une maison. Elle y était chargée de la buanderie. C'était pas un mince travail. Des Sœurs Blanches, la buanderie. Pensez-y. Elle portait, ces sœurs-là, des grosses robes de laine blanche qu'il fallait laver à la main dans ce temps-là. Et c'était notre sœur Simone Boisvert qui faisait ce travail terrible. Le sourire aux lèvres. Son second départ pour l'Afrique eut lieu à la fin de 1949. Elle a été nommée à Mombasa, au Kenya. Elle n'y est restée que 2 ans. Puis là, en 1952, il n'y a pas si longtemps finalement, hein? Un peu plus de 40 ans. Elle était envoyée à Tika. Je crois que c'est au Kenya aussi. Elle va y travailler plus de 20 ans, à la grande ferme que la Congrégation des Sœurs Blanches Missionnaires d'Afrique possédait. Vous savez, ces sœurs-là étaient des super-femmes. Hein? On peut se moquer des sœurs tant qu'on voudra. J'en ai connu des sœurs qui étaient des femmes, de grandes femmes, et je vais vous parler d'autres Québécoises comme ça, extraordinaires, dont j'ai trouvé la vie. J'aimerais bien que bien des communautés m'en envoient des textes brefs de 3-4 pages, 5 pages, sur les sœurs les plus remarquables de leur communauté, pour qu'on puisse les connaître et apprendre à les apprécier, à les aimer, ces Québécoises merveilleuses. Cette sœur Boisvert était de la trempe des premières sœurs de la communauté. Elle faisait guère de bruit, mais travaillait fort pour subvenir aux besoins de toute cette grande famille. Elle était chargée de bétail, quand on y pense, plus de 300 bêtes. Il y avait en plus les poules et les cochons, quoi, les porcs. Tout cela devait rapporter. Si on voulait nourrir les élèves, les enseignantes, les sœurs de tout ce petit village qu'on appelait Holy Family Convent. C'est si curieux comme on en voit souvent nos sœurs québécoises de langue française, mais elles parlaient bien l'anglais, dans des pays de langue anglaise en Afrique. Ils nous ont toujours pris, je pense, pour des anglophones. Ça faisait pas de bruit, cette petite sœur, mais faisait beaucoup de bien. Elle était dure à la peine. Elle sortait de la maison le grand matin, enveloppée de son tablier de toile. Tablier de toile de sac, vous savez. Elle avait le voile blanc, recouvert d'une étoffe de couleur pour pas le salir. Elle était chaussée de bottes en caoutchouc, parce qu'il faisait froid et humide dans son domaine au Kenya. Les 25 ouvriers de la ferme l'aimaient bien, même si elle n'avait pas réussi à maîtriser leur langue, le kikuyu. Elle les respectait, elle savait mettre la main à la pâte. Elle savait remplacer ceux qui venaient à manquer, parce que souvent, bien, faut pas parler contre les Noirs, mais en Afrique, je l'ai vu moi-même étant allé, il leur arrive d'être indolents. Hein? Bon, nous aussi, mais disons qu'ils le sont un peu plus que nous encore. Oh, je dis pas ça méchamment, hein? C'est le climat aussi. Hein? Alors, on l'appelait Mama Simoni, c'était son prénom, Simone. Il savait qu'il ne fallait pas tergiverser avec elle. Dans son domaine, c'était son lieu d'apostolat. Elle s'y donnait avec un cœur de vrai missionnaire. Son grand esprit de foi, sa facilité d'adaptation l'ont aidé à affronter les difficultés de sa tâche. C'était pas facile. Hein? C'était jour et nuit qu'elle devait être sur la brèche. Elle disait, et voilà une autre qui a eu une grande dévotion à Saint-Joseph, hein? « Ah, si je n'avais pas Saint-Joseph pour m'aider, je me demande comment je m'en sortirais. Mais il est toujours là au moment difficile, et jusqu'à maintenant, j'ai su garder en bon état le troupeau que Dieu m'a confié. » Son troupeau de 300 bêtes et tout ça. Puis aussi, les employés, les 25 employés. Alors, l'une et l'autre fois, on a dû la freiner un peu dans ses initiatives. Sinon, les volailles puis les bêtes de toutes les espèces se seraient multipliées à l'infini. Elle aimait bien les voir avoir des petits. On l'aimait bien, cette sœur. On l'aimait bien quand elle racontait les histoires de tous ses pensionnaires à poils et à plumes. Ça égayait les récréations du soir dans son couvent. Et à la fin de 1956, sœur Simone a quitté Tika pour l'Ouganda. Oui, l'Ouganda. Ça a été terrible, on s'en souvient. Et des changements se préparaient. La ferme allait être donnée à d'autres, et les sœurs qui restaient travailleraient surtout dans les écoles. Mais sur la colline, une colline rocheuse de Rubaga, elle est arrivée à produire de belles grosses tomates, dit-on, faisait quasiment des miracles. À son retour, sœur Simone a passé encore 2 années à Tika, au Kenya, semble-t-il, et elle continuait à aller son petit train. à se rendre à l'aube, à la basse-cour, toujours en costume de travail, si bien que les gens qui l'estimaient beaucoup disaient « Il n'y a qu'elle qui travaille dans cette communauté. » Je trouve ça bien sympathique. Hein? Comme si les autres sœurs qui ne travaillaient pas manuellement ne travaillaient pas. Alors, rentrée au Québec en 1962, elle a fait partie de diverses maisons. Elle a fait partie de la résidence de Montréal, ensuite à Sillery, à Rosemère, pas loin de Montréal, à Val-des-Lacs et enfin à Québec, où elle est morte. Ses occupations, ben, c'était des occupations variées, comme ses sœurs conversent. Hein. La cuisine, le jardin, les courses, les bricolages de toutes sortes. Hein. Ces sœurs-là travaillent pas pour être payées. Hein. Cherchent pas de l'argent pour s'acheter du maquillage et des toilettes. Elles travaillent dans la joie, en union avec Dieu. Je les aime, ces sœurs-là. Elles sont merveilleuses très souvent. Pas toutes, d'accord, mais la plupart. Elles sont vraiment formidables. J'en ai tellement connu qu'elles sont extraordinaires. Je les salue. Et sœur Simone aimait la nature. Elle jouissait de voir germer les plantes, les fleurs, l'acheter dans l'admiration. Elle relevait aussi dans les livres, les revues, ce qui concernait la valeur nutritive des aliments, déjà, voyez-vous, un peu comme à notre émission le vendredi à 5h, là. La valeur nutritive des aliments. Des renseignements utiles sur la culture. Sa basse-cour attirait d'ailleurs les enfants. Combien de fois les gens de la région de Sainte-Agathe sont venus lui demander des conseils pour soigner leurs bêtes ici au Québec, oui. Elle se rendait là où on la demandait. Aussi, elle était très connue et aimée dans la région de Sainte-Agathe, et c'était pour elle l'occasion de parler de l'Afrique. Une sœur, qui se trouvait avec elle à Val-des-Lacs, se rappelle comment elle avait vu à l'œuvre sa foi en Saint-Joseph. C'est un miracle qui s'est produit ici au Québec. Est-ce un miracle? Bon, on peut en douter, mais ça a bien l'air de l'être. Deux sœurs qui étaient chargées de nettoyer une allée avaient mis le feu à un tas d'herbes sèches. Mais c'est arrivé une bourrasque. Alors là, le feu menaçait de se propager à la forêt qui était toute proche. Et les sœurs racontent que, désespérées, nous appelions sœur Monique, sœur Simone à l'aide. Elle est sortie du poulailler, en boitant. Elle avait subi plusieurs opérations et était déjà assez handicapée. Elle tenait, racontent les sœurs, elle tenait en main une fourche à trois dents. Et nous n'avions que nos râteaux. Je me disais, comment pourra-t-elle nous aider? Sœur Simone planta sa fourche en terre, leva les poings vers le ciel et cria de toutes ses forces, écoutez bien ça, qu'est-ce qu'elle a crié? Tout simplement, « Bon Saint-Joseph! » Et ces trois mots à peine dits, le vent a tourné, le feu fit volte-face et vint s'éteindre à nos pieds pendant que Sœur Simone retournait à son travail. Quant à nous, nous reprenions souffle en nous asseyant sur une grosse pierre pour rendre grâce à Dieu. C'est une histoire étonnante, c'est tout récent. Il y a à peine quelques dizaines d'années. À la cuisine, sœur Simone s'ingéniait à présenter la nourriture de façon agréable. Mais il ne fallait pas trop la contrarier. Oh non, sinon elle se butait. Elle avait son petit caractère comme bien des saints. Elle avait besoin de réfléchir seule pour accepter. Et les derniers temps, bien se sentant fatiguée, cette sœur blanche missionnaire d'Afrique n'osait demander à se retirer de ce travail par crainte d'être obligée d'arrêter et de demeurer inactive. Ses sœurs veulent travailler jusqu'au dernier moment. Et frappée d'hémorragie cérébrale, mais sœur Simone Boisvert fut transportée à l'hôpital et a reçu le sacrement des malades et n'a pas repris connaissance. Et elle s'est éteinte deux jours après, le 7 novembre 1986. Une sainte sœur que sœur Simone Boisvert. Bien personnelle, sans doute, mais tout à ce qu'elle faisait, sans complications inutiles, et sans retour sur soi, d'une foi solide comme le roc, qui a su être au milieu de ses sœurs et des ouvriers de Tika, au Kenya, en Afrique. À sa manière, elle a été quoi? La présence du Seigneur. C'est ça une sœur, c'est ça un religieux, c'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien, être la présence du Seigneur. Quelles sont merveilleuses ces sœurs!